Bienvenue au dernier amphi de physique statistique intitulé « Système hors équilibre ». Les concepts expliqués dans cette séance ont pour application des phénomènes de transport qui interviennent en thermique, en mécanique des fluides, en neutronique, par exemple. La séance est constituée de trois parties. Tout d'abord, quelques idées de base sur les phénomènes de transport, puis une discussion d'un outil important appelé équation maîtresse, puis une discussion particulière des phénomènes de diffusion. Rappelons ce qu'on appelle équilibre thermodynamique. C'est une situation où la description probabiliste du système n'évolue plus dans le temps. On peut s'intéresser à l'évolution d'une grandeur A dans le temps qui a des fluctuations autour d'une valeur moyenne, et on peut construire la valeur moyenne de A comme une moyenne temporelle. Du point de vue statistique, on peut aussi raisonner sur la probabilité des microétats construits par des moyennes dites d'ensemble et construire les valeurs moyennes des grandeurs physiques indépendantes du temps. Rappelons que pour un système isolé, PI est égal à 1 sur W, le nombre de microétats. Pour un système à l'équilibre thermique, PI est égal à 1 sur grand Z exponentielle moins bêta I. La valeur moyenne d'une grandeur est donnée par la somme des valeurs possibles de cette grandeur pondérée par leur probabilité. Nous nous intéressons maintenant à des situations dites hors équilibre. Ce sont des situations dans lesquelles on observe des gradients des grandeurs physiques. Est ainsi représentée une situation où l'on a un gradient de densité, d rho sur dx, un gradient de densité d'énergie, d rho sur dx, et une situation où l'on a un gradient de la composante selon x du vecteur vitesse, dvx sur dy. Il résulte de ces gradients des courants de la grandeur associée, courant de particules, courant d'énergie ou encore courant de quantité de mouvement, que l'on peut représenter par le flux de la grandeur à travers un élément de surface. Et dans le modèle de réponse linéaire, ces courants sont proportionnels au gradient. C'est ainsi que le courant de particules grand J est proportionnel à d rho sur dx, moyennant un coefficient appelé coefficient de diffusion, c'est la loi de Fick. Le courant d'énergie est proportionnel au gradient d'énergie moyennant un coefficient K, c'est la loi de Fourier. Et le courant de quantité de mouvement, qui est aussi la composante XY du tenseur des contraintes, est proportionnel au gradient de vitesse moyennant le coefficient de viscosité, c'est ce que l'on appelle la loi de Newton. Cette slide rappelle brièvement les équations de conservation que vous avez étudiées en détail en classe préparatoire. On peut obtenir l'équation de diffusion à partir de la combinaison de l'équation de conservation de la masse et de la loi de Fick, et l'on obtient alors l'équation de diffusion pour la densité que l'on avait discutée dans le premier amphi avec un phénomène caractéristique d'élargissement de la concentration en racine de temps. De la même façon, intéressons-nous à l'équation de la chaleur à une dimension. Dans ce cas, on a donc un gradient de densité d'énergie ou encore de température. Si l'on considère un gaz parfait, on peut écrire la relation de proportionnalité entre la densité d'énergie à la température moyennant un coefficient petit a qui s'avère valoir 3,5 de rho n fois k, où rho n est la densité de particules, et on peut ainsi écrire le courant d'énergie JE comme étant proportionnel au gradient de densité d'énergie ou encore proportionnel au gradient de température. C'est ainsi qu'on peut introduire tout aussi bien dans la loi de Fourier une diffusivité thermique grand K ou une conductivité thermique grand kappa, les deux étant directement proportionnels via le coefficient petit a. En combinant ceci avec l'équation de conservation de l'énergie, on obtient l'équation de la chaleur, d rho sur d rho t, égale grand K d de t sur dxk. Que peut-on dire maintenant au niveau microscopique? On a différentes classes de modèles, la théorie cinétique, telle que vous l'avez étudiée pour les gaz, l'équation maîtresse, dont je vais parler ici, ou encore l'équation de Langevin, introduite pour le mouvement brownien. Il existe ensuite d'autres classes de modèles, telles que l'équation de Boltzmann, dont je n'aurai pas le temps de parler dans cet amphi. Considérons un système simple à deux états. Je vous donnerai deux exemples très différents. Un atome qui peut être dans un état fondamental ou excité, ou une personne qui peut être en bonne santé ou malade. Le système peut transiter de l'état 1 à l'état 2 avec un taux de transition T1,2 qui est égal à la probabilité de transition de 1 à 2 par unité de temps. Et de la même façon, on a un taux de transition T2,1 de l'état 2 vers l'état 1. Plus généralement, on a des taux de transition TIJ. Que peut-on alors dire pour l'équation d'évolution pour la probabilité PI de T? On fait l'hypothèse que les transitions ont un caractère markovien, c'est-à-dire qu'elles se produisent sans mémoire du passé. En conséquence, la probabilité que le système soit dans l'état 1 à la date T plus DT est égale à la probabilité qu'il l'ait été à la date T diminuée de la probabilité qu'il ait transité de l'état 1 vers l'état 2 plus la probabilité qu'il était dans l'état 2 à la date T multiplié par la probabilité de transition de l'état 2 vers l'état 1 pendant cette durée. On obtient en conséquence une équation d'évolution pour P1 de T qui fait apparaître les taux de transition T1,2 et T2,1 et les deux probabilités P1 de T et P2 de T. C'est ce que l'on appelle l'équation maîtresse. Discutons maintenant la dynamique d'un système à deux états. La solution de cette équation est donnée sur le transparent avec un taux de transition caractéristique oméga qui est égal à la somme T1-2 plus T2-1 et par ailleurs une probabilité dans l'état 1 à l'équilibre qui est donnée par T2-1 sur oméga. Considérons par exemple le problème de désintégration radioactive dans lequel il n'existe qu'un seul processus. L'atome peut passer de l'état 2 à l'état 1 mais ne peut pas passer de l'état 1 à l'état 2. En conséquence, T1-2 égale 0 et l'équation précédente a pour solution P2 de T égale P2 de 0 exponentielle moins oméga T. C'est la fameuse loi de désintégration exponentielle. Cette équation maîtresse peut se généraliser à un système à grand N niveau. L'équation maîtresse prend alors la forme plus générale présentée sur ce transparent. Ces équations maîtresses peuvent être appliquées à tout un ensemble de domaines, en chimie, en biologie, pour des problèmes d'épidémiologie, en démographie, avec les problèmes de dynamique de population, ou encore en économie et en finance. Une application marquante de l'équation maîtresse est la démonstration de l'irréversibilité pour un système isolé, c'est-à-dire la croissance de l'entropie. L'entropie de Gibbs vaut moins K somme des PI log de PI. Si j'étudie sa variation dans le temps, cela fait apparaître les dérivées par rapport au temps des probabilités, dont on a vu qu'elles peuvent s'exprimer au moyen de l'équation maîtresse. À l'équilibre, les probabilités ne dépendent pas du temps. On en déduit que tous les termes de l'équation maîtresse ci-dessus sont nuls. Ce qu'on appelle l'hypothèse de micro-réversibilité, c'est-à-dire Tij PI à l'équilibre égale Tj PJ à l'équilibre. Mais pour un système isolé, les probabilités de tous les micro-états sont égales. En conséquence, Tij égale Tji. Si j'utilise ce résultat dans l'équation maîtresse, je peux réexprimer la variation dans le temps de Pi et obtenir l'expression plus simple de la variation d'entropie dans le temps qui est présentée ici. En faisant la demi-somme après une permutation des indices I et J, on obtient l'expression suivante dans laquelle on remarque que puisque la fonction logarithme est une fonction croissante, tous les termes sont positifs et en conséquence, la dérivée de l'entropie par rapport au temps est nécessairement positive. C'est ce que l'on appelle le théorème H de Boltzmann. Je décris maintenant rapidement la façon de retrouver les coefficients de transport par une analyse microscopique et je présente la première analyse qui a été faite par Maxwell en 1850. À l'intérieur d'un gaz, les molécules se propagent avant un choc sur une distance moyenne appelée le libre parcours moyen lambda. Ce libre parcours moyen peut s'exprimer à partir de ce que l'on appelle la section efficace de collision, sigma égale pi des carrés, et la densité numérique rho. On montre aisément que lambda est à peu près donné par 1 sur sigma fois rho. La grandeur phi égale au produit rho fois vitesse thermique divisé par 6 représente un flux surfacique de particules à travers une section perpendiculaire à l'axe des x. C'est un nombre de particules par unité de temps et par unité de surface. Le facteur 6 vient du fait que l'on s'intéresse au mouvement des particules selon une des 6 directions possible dans une vision simplifiée sur un réseau. Le courant de particules est ainsi égal au flux de particules issu de la position x moins lambda, se propageant vers la droite, moins le flux de particules issu de la position x plus lambda, allant vers la gauche. En introduisant le gradient du flux par rapport à x, c'est aussi égal à moins de lambda dφ sur dx. En considérant qu'il s'agit ici d'une situation isotherme où la vitesse thermique est constante dans le système, on fait apparaître simplement le gradient de densité numérique et ainsi J s'écrit sous la forme moins d fois d rho sur dx, où d s'identifie au produit du libre parcours moyen lambda par la vitesse thermique divisé par 3. Avec les mêmes arguments, on peut étudier le flux d'énergie et obtenir la loi de Fourier avec le coefficient de conductivité thermique kappa qui prend une expression simple en fonction de la densité numérique, de la vitesse thermique, du libre parcours moyen et de la constante de Boltzmann. Et enfin, on peut faire l'analyse du flux de moment ou de quantité de mouvement et obtenir la vision microscopique de la loi de Newton avec une expression simple de la viscosité faisant intervenir la densité numérique, la vitesse thermique, le libre parcours moyen et la masse des molécules. Revenons enfin sur l'analyse du phénomène de diffusion en termes de marche aléatoire, c'est-à-dire une succession de sauts indépendants de longueur lambda et de durée tau. On avait vu dans le premier amphi que la distribution de probabilité de position de la particule au bout du temps petit t est donnée par une gaussienne faisant apparaître le coefficient de diffusion grand D s'identifiant à lambda carré sur 2 tau. Einstein, dans son article de 1905, avait décrit le mouvement brownien comme résultant des collisions collision des molécules du liquide sur la particule colloïdale en suspension. Le problème a été repris par Paul Langevin en 1907. Cette somme des collisions s'exprime alors sous la forme d'une somme de deux contributions, une contribution liée à l'effet moyen des collisions, moins gamma V, et une contribution aléatoire ou stochastique, F de T. La contribution cohérente des collisions est proportionnelle à la vitesse, sous la forme d'un terme moins gamma V, avec un coefficient de traînée gamma, tandis que la contribution incohérente fait apparaître une force aléatoire F de T. Le mouvement de la particule colloïdale sous le simple effet de la force cohérente donne une vitesse qui relaxe exponentiellement en fonction du temps, avec un temps de relaxation tau égal à M sur gamma. La force aléatoire a une contribution moyenne nulle, mais des corrélations temporelles sur des durées très courtes. On peut exprimer cela en écrivant que la valeur moyenne du produit F de T par F de T plus S est une fonction de Dirac, delta de S, avec une intensité grand A. À partir de là, il est possible d'étudier l'évolution de la valeur moyenne du carré de la vitesse et du carré de la position. Le calcul montre que ces deux termes sont égaux à une certaine constante, plus un terme relaxant exponentiellement dans le temps. Mais on sait aussi exprimer la valeur moyenne de la vitesse au carré à l'équilibre, c'est kt sur m, et on sait aussi exprimer la valeur moyenne de x carré, c'est 2 dt. En combinant ces deux équations, on obtient une expression qui relie le coefficient de diffusion au coefficient de traînée gamma, d égale kt sur gamma, que l'on appelle la relation d'Einstein. Cette relation d'Einstein est très utile dans tout un ensemble de situations physiques. Elle permet de relier le coefficient de diffusion dans un liquide au coefficient de traînée visqueuse égal à 6π eta r, où r est la taille de la particule colloïdale, ce qui donne une expression du coefficient de diffusion faisant apparaître la température, la constante des gaz parfaits, la viscosité, le nombre d'Avogadro et la taille des molécules. Jean Perrin, en 1909, en étudiant le mouvement brownien dans une suspension colloïdale, a pu, à partir de cette relation d'Einstein, prédire une valeur du nombre d'Avogadro. Ceci a constitué une des preuves de l'existence des atomes. Les points essentiels de cet amphi sont les suivants. Tout d'abord, nous avons vu qu'il était possible de décrire l'évolution des probabilités des micro-états à l'aide d'une équation maîtresse, et ceci nous a permis de montrer la croissance de l'entropie d'un système isolé. Par ailleurs, nous avons étudié les phénomènes de diffusion de différentes façons. Nous avons rappelé la loi de Fick, nous avons donné l'expression microscopique du coefficient de diffusion comme le produit du libre parcours moyen par la vitesse thermique. Enfin, nous avons expliqué la relation d'Einstein reliant le coefficient de diffusion à l'énergie thermique et au coefficient de dissipation dans le système considéré.